Chaque jeudi, vous avez rendez-vous avec la semaine des rédactions. Le principe est simple, et vous le connaissez, on fait le tour de l'actualité de la semaine avec les moments forts des différentes radios juives, partenaires et amis à Marseille, à Jérusalem et à Paris. Avec vous, Emmanuel Hadda, depuis Jérusalem, on évoquera la mort tragique, évidemment, de la journaliste Chérine Abouaklé et les répercussions de cette affaire dramatique.
Oui, tout à fait. Beaucoup de choses se déroulent actuellement en Israël et dans les territoires palestiniens et sur les réseaux sociaux arabes. Donc, ce sera l'occasion d'en parler.
Alors, on parlera également des législatives avec vous, Sandrine Seban, directrice de l'antenne de RCJ, avec cet appel d'intellectuels juifs de gauche, pas tout à fait à l'aise avec la NUP et son manque d'énergie, on va dire, pour être gentil dans son combat contre l'antisémitisme.
Vous êtes très gentil, effectivement. Et même ce terme qu'on emploie, intellectuel juif de gauche, j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas employé. Il y a toujours des intellectuels, il y a toujours des juifs, il y a toujours des intellectuels juifs et de plus en plus. Mais il y a peut-être aussi de moins en moins d'intellectuels juifs de gauche et à juste titre.
Et on terminera avec vous, Elsa Charbit, directrice de l'antenne de Radio J Marseille. On écoutera le maire de Marseille, Benoît Payan.
Oui, Benoît Payan qui s'est donc joint au Fonds social Juif Unifié, donc pour un beau partenariat pérenne, afin de remettre un prix, le prix Robert Misrahi, qui vient couronner un travail d'un étudiant sur la mémoire, je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure, en présence de Robert Misrahi, et ça, on en était ravis, c'est un ancien président du Fonds social Juif Unifié.
Voilà, on va démarrer avec vous, Emmanuel Hadda, pour évoquer donc la mort de cette journaliste d'Al Jazeera, américano-palestinienne, Chérine Abouaklé.
Absolument. Alors, on en a déjà beaucoup parlé hein, sur les ondes de RCJ, mais il y a quand même des petits éléments que j'aurais souhaité soulever avec vous. Tout d'abord, l'importance des réseaux sociaux. En fait, aujourd'hui, on peut faire un constat, c'est que ce ne sont plus les médias vraiment qui font bouger les choses, ce sont les réseaux sociaux qui vont extrêmement vite. Et ici, en Israël, on a beaucoup de gens qui sont spécialistes des réseaux sociaux arabes. Et ce qu'on voit, eh bien, c'est que la jeunesse arabe est particulièrement, on va dire, influencée par tout ce qui circule sur les réseaux sociaux. Alors, je vous donne un petit exemple pour vous montrer à quel point on le vit au quotidien en Israël. Par exemple, il y a eu une annonce sur les réseaux sociaux arabes qui encourageait tous les jeunes arabes d'Israël de porter un t-shirt avec le dessin d'une kalachnikov sur le dos. Et aujourd'hui, effectivement, l'espace de quelques jours, on a pu voir beaucoup de jeunes, dont des jeunes qui travaillent dans des sociétés israéliennes, qui sont livreurs de supermarchés, etc., débarquer avec ce t-shirt. Ben, je peux vous dire que ça fait froid dans le dos. Donc ça, déjà, c'est un constat pour nous, journalistes, très important, c'est que les réseaux sociaux nous ont largement dépassés au niveau de leur influence sur les populations. Maintenant, pour revenir sur la mort de cette journaliste, alors le gros truc, c'est bien évidemment comment les médias francophones, les médias français ont traité le sujet. Quand on voit le tweet de Jack Lang, vous parliez d'intellectuel de gauche français, Jack Lang qui a été dans le gouvernement de Mitterrand, qui est quand même une personnalité reconnue en France, eh bien Jack Lang a tweeté que cette journaliste est morte d'une balle israélienne, sans se poser de questions, sans attendre la fin de l'enquête, sans mettre un doute sur ça. C'est une évidence que ce sont les Israéliens qui ont tué cette journaliste. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est que la vidéo qui a circulé, qui a été tournée par les Arabes, par les Palestiniens de Jenin, où on voit un terroriste qui tire dans une ruelle une rafale de mitraillettes et qui crie avec des cris de joie « J'ai tué un soldat, j'ai tué un soldat ». Or, il n'y a pas eu de soldat, grâce à Dieu, il n'y a pas eu de soldat israélien ni blessé ni touché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vraisemblablement, eh bien, cette journaliste aurait été tuée par cet homme. Et ça, c'est la première chose. Et puis, deuxièmement, l'autopsie qui a été réalisée par un médecin de Naplouse et qui dit « je ne peux pas annoncer à qui appartenait cette balle ». Si ça avait été une balle israélienne, et on peut, d'une enquête balistique, vraiment distinguer très rapidement si c'est une balle israélienne ou pas, eh bien, il aurait crié déjà haut et fort que c'était une balle israélienne. Vous ne croyez pas ?
Ah, on est certain, d'autant plus que, j'ai envie de dire, ce médecin palestinien que je trouve extrêmement courageux d'avoir dit ça, il faudra voir, essayer de prendre de ses nouvelles d'ici quelques jours, parce qu'effectivement,
il est mal.
Je pense que voilà, c'est en tout cas extrêmement courageux, on va dire ça comme ça, de l'avoir dit, et c'est évident ce que vous dites, Emmanuel, mais quoi qu'il en soit, c'est quand ce genre de drame intervient, d'abord, effectivement, il faut dire que c'est un drame, c'est une femme qui a été tuée, c'est une consoeur qui a été tué. Rappeler qu'évidemment le métier de journaliste est infiniment dangereux, que quand on le fait dans ces conditions-là, eh bien voilà, on prend des risques, évidemment, et que cette rapidité sur les réseaux sociaux, elle est absolument dramatique, et que la rapidité aussi avec laquelle on le dit, nos confrères de l'agence France Presse a sorti une dépêche en disant effectivement que c'était les Israéliens.
Première dépêche.
Et ensuite, vous pouvez toujours produire 1, 2, 3, 4, 15 dépêches. Le mal est fait parce que l'information a été très vite. Elle a été dans tous les téléscripteurs, comme on disait à l'époque, de la planète, des autres journalistes qui l'ont repris. Et voilà.
Regardez les répercussions. Déjà ce matin, déjà hier soir, tentative d'attentat à Jérusalem. Ce matin, deux jeunes juifs à Akko ont été attaqués par des Palestiniens. Sur le terrain, ça a déjà des effets terribles. Alors, je pense pas qu'on arrivera. On s'est tous posé la question, est-ce que ça va arriver à une nouvelle affaire Al-Doura? Je ne pense pas que ça arrivera à ce niveau-là, mais c'est possible. En tout cas, il y aura des répercussions sur le terrain qui vont être très importantes au niveau. Et déjà, vous le savez, le niveau sécuritaire en Israël depuis quelques semaines, avec le nombre d'attentats qu'on a eu, est très très élevé. Mais tout le monde est extrêmement tendu ici, en se disant déjà cette déferlante de désinformation dans le monde. Plus cette violence qui est en train de rugir dans les villes mixtes et dans les territoires palestiniens, j'espère vraiment, vraiment que ça va se calmer au plus vite.
Elsa Charmit, une réaction.
En fait, moi, j'ai beaucoup senti, j'ai passé pas mal de temps en Israël cette année, je l'ai vraiment senti, cette tension. Et moi, peut-être qu'Emmanuel a une réponse, que moi, j'en ai pas. Toute cette jeunesse, moi, j'ai vu beaucoup de jeunes à Tel Aviv, c'est-à-dire qui vivent souvent, des Arabes israéliens qui vivent à Yafo. Pourquoi sont-ils tous habillés de noir? Pourquoi les jeunes, cette génération, sont habillés de noir?
Oui, tout à fait. Ben, ça fait partie justement de cette politique des réseaux sociaux, en fait, où ils influencent les jeunes à avoir certaines attitudes, à porter certains vêtements, à manifester, etc. Et puis,
ça m'a sauté aux yeux.
Vous avez dû remarquer, Elsa, également, qu'il y a beaucoup, beaucoup de changements au niveau du ton. Moi, j'ai été moi-même agressée. Je ne sais pas si vous avez lu un post que j'ai écrit il y a quelques jours sur Facebook. J'ai été agressée dans mon propre quartier à Yafo, là où j'habite, dans ma propre rue, par un conducteur de arabe israélien qui habite Yafo, très certainement. Et quand je me suis défendue, etc., il y a deux jeunes arabes qui sont apparus. Je ne sais pas d'où ils sont sortis, ils sont venus vers moi et qui m'ont dit en hébreu, si jamais tu déposes plainte à la police, on te retrouvera. Je veux dire, il y a une ambiance, donc je n'ai pas porté plainte, vous vous en doutez, et c'est vraiment dommage, je le regrette parce que ça aurait dû être mon attitude première, mais j'ai eu peur pour ma famille, j'ai eu peur pour moi.
Non, mais il y a longtemps, Emmanuel, qu'on est conscient de cela. Et les choses n'avancent pas. Je veux dire, est-ce que véritablement l'État d'Israël n'a pas de moyen d'agir?
Elle recule.
Si, bien évidemment, elle recule. Vous voyez qu'elle recule. Elle recule, mais on est pieds et poings liés par toutes sortes de choses diplomatiques.
Une question de gouvernement ou pas?
Aussi, mais c'est une question aussi de relation avec l'autorité palestinienne, c'est une question de relation avec les Américains. On est pièces et poings liés. Vous savez bien, Elsa, que lorsqu'on a mené des opérations militaires à Gaza, on a dû arrêter en plein milieu parce que les États-Unis nous demandaient de le faire ou parce que Israël n'a pas de liberté d'action comme on le souhaiterait d'ailleurs.
N'a plus. Elle a eu un moment.
On va refermer
pour se défendre, on l'a fait.
Allez, on peut rester 2 heures sur ce sujet.
Évidemment, on va refermer ce chapitre israélien pour parler de ce qui nous occupe en France pour les prochaines semaines, c'est-à-dire les législatives avec vous, Sandrine Seban, et cet appel de certains intellectuels juifs qui se réclament de gauche et qui, évidemment, voient en Jean-Luc Mélenchon, on va dire, une figure pas forcément rassurante.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et comment dirais-je ?
Je suis sur l'euphémisme aujourd'hui.
Vous avez annoncé très bien, très bien. Et comment dire qu'effectivement, nous sommes totalement d'accord avec eux et nous l'assumons, c'est peu de le dire. C'est un texte que j'ai trouvé, moi, d'abord, vraiment assez juste, et puis aussi avec quelques passages assez révoltants et en même temps très touchants dans cette démarche. Alors, certains diront, oui, mais ils auraient dû se réveiller plus tôt, ou ils sont un peu angéliques. Oui, mais voilà. Et il y a un moment donné, effectivement, dans ce texte, qui est signé donc par des juifs de gauche, intellectuels de gauche, comme on dit, cette phrase que je voulais vous lire. « Combien de collègues et d'amis sont encore forcés de taire ou de cacher leur judéité dans les milieux de gauche pour ne pas être assaillis de questions sur Israël, être stigmatisés ou voir leurs engagements politiques remis en question ?» Est-ce qu'on se rend bien compte de ce que ça veut dire ? Ça veut dire que à gauche, aujourd'hui, alors on va dire principalement LFI ou dans certains milieux écologistes, peut-être moins au Parti Socialiste, on aurait tendance à dire évidemment moins au Parti Socialiste, mais le Parti Socialiste aujourd'hui étant avec cette coalition hétéroclite de NUPES, effectivement, est-ce qu'on se rend bien compte de ce que ça veut dire ? Des militants de gauche, quand on connaît l'histoire de la gauche en France, quand on sait ce qui a été tous ces combats, quand on sait qui ont été ces grandes figures, évidemment Jaurès, Blum et tous les autres, de se dire que des militants de gauche ne disent pas qu'ils sont juifs pour ne pas devoir en permanence se dire « Ah, mais Israël, ah, mais le sionisme, ah, mais
Sandrine, il y a tellement longtemps que ces intellectuels, d'abord, auraient dû quitter cette gauche, il y a tellement longtemps qu'ils auraient dû réagir. Je suis désolée, c'est un petit peu, une fois que la maison brûle, c'est un peu tard. Ça ne va pas servir à grand-chose, à mon avis. Et entre nous soit dit, qu'ils commencent par dire qu'ils ne sont plus des intellectuels de gauche, déjà.
On va écouter.
Et ça dépend de quel gauche. Vous voyez ce que je veux dire, Elsa
eux, ils sont tous sont ensemble attachés aujourd'hui, la gauche,
oui, mais
pour
eux
gagner
sont...
ces législatives.
Oui, mais eux sont attachés à ce qu'est la vraie gauche, les vraies valeurs de gauche, les vraies valeurs
elles
sociales,
n'existent
de
plus.
Progrès, de lutte contre le racisme, l'antisémitisme. Si, les valeurs, elles existent toujours. Maintenant que
oui,
les partis politiques
cette gauche.
Ne les portent plus, c'est un autre débat. Mais les valeurs, fort heureusement, existent toujours, mais sont-elles portées ou pas par NUPES ? Voilà.
Alors, je vous propose d'écouter donc le témoignage d'une qui est plus que co-signataire, qui est rédactrice à l'origine donc de cette tribune, la réalisatrice Anna Assouline.
On s'est dit qu'il fallait que ça soit un appel, et donc pas juste, pas juste un truc accusateur, mais vraiment un appel aux dirigeants de gauche, aux responsables de gauche et aux militants de gauche à prendre leurs responsabilités sur ces questions, à nous écouter, à nous entendre et à intégrer dans leurs engagements maintenant la question de l'antisémitisme qui doit faire partie de son ADN, parce que quand on est de gauche et qu'on lutte pour les minorités, contre le racisme, etc., on ne peut pas faire l'impasse de la lutte contre l'antisémitisme, donc c'est le sens de notre appel. On est plutôt dans une démarche où on a envie aussi d'accueillir les signaux positifs, en l'occurrence par exemple cette tribune. Elle a été publiée, et pas dans n'importe quel journal, elle a été publiée dans Mediapart. Ils ont tout de suite accepté de la publier, ils l'ont publiée en une. Elle a été retweetée par des journalistes assez connus qui n'ont pas toujours été sur ces questions les premiers à s'exprimer et qui l'ont retweetée, donc qui ont donné de la visibilité à ce message. Donc je crois qu'aussi ces petites portes qu'on ouvre avec cet appel sont importantes et qu'on doit les... et qu'on doit les accueillir sans être dans une position où de toute façon tout est fermé, tout est bloqué et où on s'enferme finalement dans cette solitude qu'on nous impose, hein, qu'on n'a pas choisi, mais je crois que c'est vraiment le sens aujourd'hui de notre démarche, c'est vraiment d'être dans une démarche collective où on interpelle, où on avance ensemble, où on se bat ensemble et où on demande à tout le monde de prendre ses responsabilités.
Voilà,
alors c'est quoi ? C'est une prise de conscience ? C'est un sentiment de culpabilité un petit peu, d'après vous, c'est quoi ?
Non, d'après moi, c'est effectivement lié à la nouvelle coalition et que ces personnalités juives de gauche faisaient une vraie et nette distinction entre le Parti Socialiste, la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts. Et que le fait que maintenant,
eux,
il y ait une seule et unique coalition dans les législatives, avec, il faut le dire, certaines personnalités, pas des moindres du Parti Socialiste, qui ont quitté le PS à ce moment-là, voilà, je pense que ça participe à tout cela.
Aujourd'hui, nous avons un parti de centre et on a une extrême droite et une extrême gauche. Je suis désolée, il va falloir accepter ce nouveau paysage
politique.
Il y a trois
blocs, on est d'accord, il y a trois blocs.
Voilà. On reste avec vous. D'ailleurs, vous avez un maire de gauche, Elsa Charbit, c'est Benoît Payan.
Oui, absolument. Alors, justement, ça redonne un peu confiance, je trouve, parce que Benoît Payan a été élu. C'est vrai, sur une coalition de gauche avec des comités citoyens assez extrêmes. C'est un conglomérat de gauche qui n'est pas toujours facile à identifier et qui ne nous aime pas plus que ça, à mon avis. Sauf que Benoît Payan, c'est un petit-fils de résistant. C'est un homme que je connais depuis très longtemps. Il vient du Parti socialiste, qui a toujours défendu des valeurs de la vraie gauche, celle qu'on aime. Et du coup, quand moi, je l'ai proposé de s'associer au prix du Fonds social juif unifié, le prix Robert Misrahi. Robert Misrahi est un ancien adjoint au maire, ancien président du FSJU. Il s'occupait également de remettre les médailles des justes. C'est un type formidable, un enfant caché, etc. Il a dit oui tout de suite. Il a dit d'abord, on vient du même parti. Et puis, c'est vraiment ce que je veux pour ma ville. Et nous, communauté juive, on doit travailler pour que notre travail soit avant tout citoyen, qu'il ne soit pas que communautaire, qu'il soit porté par la citoyenneté aussi. Et donc, ce prix devient pérenne. Et l'année prochaine, pour les 80 ans de la RAF, Benoît Payan veut que la communauté voit les choses en grand à ses côtés. Donc, vous voyez, quand même une gauche qui permet d'espérer.
Il appartient au maire de Marseille de faire ça. C'est sa responsabilité. Et c'est mon honneur de le faire. De le faire ici, dans la mairie. De le faire pour Robert Misrahi, de le faire pour la mémoire, de le faire pour ce petit Marseillais qu'il a été, pour ce Marseillais qu'il est. Je lui disais tout à l'heure que dans ses yeux, forcément, je n'ai pas connu le petit garçon qu'il était, mais il y a ce regard, il y a cet amour qu'il donne, qu'il transmet, il y a cette force tranquille, incroyable, qu'il a en lui. Les années sont passées et la force reste. La force de ce témoignage, de cette mémoire, de cette ville qui a été martyrisé en 1943, de ce peuple qui a été génocidé. Et il m'appartient de dire aujourd'hui, évidemment, que cette ville ne serait pas cette ville sans ceux qui l'ont faite, sans ceux qui l'ont construite, sans ceux qui en ont été l'ossature et qui le sont encore aujourd'hui. Et c'est ma responsabilité de le faire vivre, pas parce qu'il faudrait s'enfermer dans la mémoire comme si c'était quelque chose d'intangible, pas parce qu'il faudrait commémorer sans cesse un passé douloureux ou glorieux, mais parce qu'il faut se souvenir. Parce qu'il faut se souvenir que la paix, que la vie, c'est quelque chose de fragile. On voit à quelques centaines de kilomètres d'ici que tout peut basculer. Robert, comme d'autres, en faisant vivre cette mémoire, nous rappelle sans cesse que l'antisémitisme, que le racisme sont des monstres qui survivent par-delà les temps et qui ne sont pas morts. Eh bien, il faut savoir les démasquer, les débusquer et les combattre.
Très fort ce message.
Ouais. Vous savez, il a fait un discours et puis il avait des notes, mais on voyait qu'il parlait avec son cœur. Je le connais suffisamment pour le savoir. Je vous promets, il y avait 200 personnes dans la salle, la moitié avait les larmes aux yeux. Il a fait un discours exceptionnel. Donc oui, il y a encore cette gauche, elle est toujours vivante. À nous maintenant aussi de la faire s'exprimer, de l'aider. Mais bon, il faut qu'ils soient assez nombreux aussi à gauche pour pouvoir tous réagir.
Sandrine Seban, une réaction ?
Mais c'est vrai que, enfin, c'est d'abord le genre aussi de prix. Il faut bien le dire qu'on est très fiers au FSJU d'avoir et de porter et des déclarations qui sont extrêmement importantes. Mais oui, on a l'impression d'entendre parler d'une époque, d'une gauche, d'une classe politique qui malheureusement existe de moins en moins aujourd'hui.
Vous savez, Sandrine, il y a une couverture médiatique pour ce prix qui m'a étonnée. La Marseillaise, c'est quand même le journal de gauche ici. Ils ont fait première page, une double page à l'intérieur, la Provence, les journaux, les sites. Tout le monde a repris ça. Donc, ça donne encore des espoirs.
Ah bah, vous voyez, on va terminer là-dessus.
Terminons sur une note d'espoir. Une fois n'est pas coutume quand même dans cette semaine des rédactions. Merci Elsa Charbit à Marseille. Merci Emmanuel Adam en Israël. Et merci à vous, Sandrine Seban, la directrice donc, de RCJ. Voilà, vous écoutez RCJ midi. Dans un instant, vos chroniques.